원, 투, 출! 파이어!
Terrien, ce mois-ci High Time sera consacré à la souffrance psychique et ses modalités de soins. La psychiatrie sous toutes ses formes, et elles sont nombreuses car on ne réduit pas la santé mentale à un algorithme neuropsychologique, cette psychiatrie donc se porte mal. Les difficultés rencontrées par la psychiatrie sont d'une part les mêmes que celles affectant la médecine, manque de moyens, engorgement des services, fuite vers le privé, rémunérations insuffisantes, perte d'attractivité, asymétrie territoriale avec des déserts psychothérapeutiques. Nous observons aussi un déclin spécifique à la psychiatrie qui date de la fin des années 1990 avec une stigmatisation de la santé mentale d'où les politiques ne sont pas sans reproche. de l'uniformisation impossible de cette discipline qui fait appel autant à la création, à l'imagination, à l'écoute analytique qu'à la science et à la pharmacopée. On a bien souvent fabriqué un monstre bureaucratique de surveillance psychique qui n'est pas adapté aux réalités de terrain. Et encore moins opérationnel dans un contexte social dégradé où s'accumulent les misères qui en ont, dépression, schizophrénie, burn-out, suicide. Bref, tous les exilés de l'intime. Les exclus de la société. Exceptionnellement ce mois-ci, écoutons un peu ce qu'en disent des professionnels sur LCP. Avec Mary Giacardi, Franck Bellivier, Émile Mallet et Daniel Zaguri. Vous écoutez toujours iTime, sur Radio Primitive.
En ce qui concerne les urgences, est-ce qu'il est exact que c'est un parcours du combattant pour pouvoir se soigner ?
Oui, absolument, c'est ce qu'on constate sur le terrain. D'abord, pour aller... Pour donner quelques explications peut-être au manque d'attractivité de la spécialité, il faut rappeler que c'est une discipline très singulière qui demande des capacités de résistance au paradigme de notre société, à savoir qu'elle repose sur un savoir qui se construit uniquement dans la relation avec le patient et dans l'espace intersubjectif. Donc cela se heurte à des paradigmes sociétaux, c'est-à-dire que il faut avoir, on a faire une part d'incertitude quotidienne et il faut donc pouvoir supporter cette part d'incertitude puisque c'est une spécialité purement clinique, aucun moyen de prouver le diagnostic qu'on établit, qui s'établit juste dans l'intersubjectivité. Et ça n'a rien à voir avec le discours de l'evidence-based medicine dans laquelle nous sommes baignés et pendant nos études et pendant notre exercice. Nous ne pouvons pas prouver ce que nous avançons. Et d'autre part, nous travaillons dans un espace-temps qui est très différent et qui doit nous décaler de la course folle que nous vivons dans la société actuelle, puisque le temps psychique est un temps long, il faut du temps pour rencontrer le patient, instaurer un climat de confiance, comprendre ce qui se passe, où va se loger sa souffrance. Et nous ne pouvons pas donc assurer, nous devons expliquer d'emblée au patient et à sa famille que nous n'allons pas avoir un résultat immédiat, nous n'allons pas avoir une efficacité immédiate, non, ça n'ira pas mieux demain. En ce qui concerne le parcours du combattant, oui, c'est un parcours du combattant. D'abord parce qu'il y a une détérioration, une dégradation de la santé mentale, mais qui est antérieure à la crise de la pandémie. On y reviendra certainement. Et donc, il y a certes une pénurie de psychiatres, mais il y a une explosion des demandes de soins qui a à voir avec cette dégradation de la santé mentale, qui fait que nous avons à peu près les personnes qui sont en demande attendent parfois 3 à 6 mois avant de pouvoir rencontrer un psychiatre. Que lorsqu'un psychiatre s'installe en cabinet privé, son cabinet est plein en un mois. Et pour qu'il s'occupe bien de sa patientèle, il doit refuser les nouvelles demandes ou bien encore pire, faire le tri des demandes entre selon des critères d'urgence et notamment le risque suicidaire qui est majeur dans la population actuelle et qui touche surtout les jeunes de 11 à 25 ans.
Dans quel cadre vous travaillez ?
Je travaille en clinique, je travaille dans 2 endroits, en clinique privée, dans une institution privée d'hospitalisation, de 100 lits et en cabinet de consultation.
Alors, monsieur Bellivier, je m'intéresse à vous sur la question de la formation. Les psychiatres et les infirmiers psychiatriques avaient l'habitude de travailler ensemble. Aujourd'hui, à vous écouter, la psychiatrie n'est plus une spécialité médicale. Mais on va former pendant 2 ans, si mon information est bonne, des infirmiers en pratique avancée. Autant dire que la santé mentale est dans un trou, là. Alors, en termes de personnel.
Juste un commentaire sur ce que ma collègue vient de dire. Avant la crise Covid, les suivis épidémiologiques de la population française ne montraient pas une dégradation de la santé mentale des Français. En revanche, on a vu ces 10-20 dernières années un nombre croissant de demandes converger vers la psychiatrie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la réticence à solliciter une aide psychologique ou une aide médicale psychiatrique, eh bien, c'est atténué. Et la démarche d'aller voir un psychologue ou un psychiatre s'est démocratisée, c'est devenu plus facile. La crise Covid a clairement, épidémiologiquement, sur l'ensemble de la population française, montré une dégradation des indicateurs de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et d'idées suicidaires. Je réponds à votre question. La formation la démarche de formation des infirmiers en pratique avancée, spécialisés en santé mentale, vise à satisfaire cette idée de face à la pénurie de psychiatres, à faciliter une délégation de tâches en direction d'infirmiers qui ont reçu spécifiquement une formation pour recevoir cette délégation de tâches. Donc je pense que ça va enrichir le parcours de santé mentale des patients qui ont besoin d'une continuité dans cette
prise en charge. Mais quand ça va l'enrichir ?
Alors,
et là, le problème, c'est qu'il manque à la fois des psychiatres et on va former des infirmiers, mais ça va prendre quelques années. Et comment on va faire, là, maintenant ?
Alors,
qu'on a un embouteillage psychique, si je puis utiliser cette expression triviale.
Alors, on court un peu après cette inadéquation entre les besoins et l'offre. Ça, c'est clairement le cas. Et ce n'est pas les infirmiers de pratique avancée qui seront quelques milliers dans quelques années, mais qui, aujourd'hui, sont quelques centaines en santé mentale. Donc, effectivement, c'est plutôt une réponse moyen terme qu'une réponse long terme.
Je ne veux pas vous taquiner, mais je voudrais me demander à M. Zaghuri, quand vous entendez M. Bélivier dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, ça veut dire que la psychiatrie rentre dans un champ économique et elle est dévoyée de sa vocation, non ? Je ne cherche pas la polémique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là quelque chose de...
Je crois que c'est très important que les psychiatres, justement, qui sont dans une discipline extrêmement hétérogène, extrêmement diversifiée, extrêmement riche, mais c'est à la fois leur talon d'Achille et leur richesse. Et c'est très important que les psychiatres, quel que soit le courant qu'ils représentent, soient unitaires et aient une défense de la profession. Il n'y a pas de pic de la Mirandole psychiatre qui sache tout, la psychiatrie biologique, l'épidémiologie, la relation, la psychanalyse, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais tous, nous sommes au service d'une psychiatrie intégrative qui est pour le patient et qui utilise toutes les ressources de la connaissance dans l'intérêt de ce patient. Donc, moi, j'ai pas du tout un esprit polémique et si vous avez lu mon livre, vous avez vu que ça me paraît extrêmement important.
Vous dites que vous n'êtes pas polémique, mais vous dites qu'on massacre la psychiatrie quand même.
Je dis qu'on massacre la psychiatrie parce que quand vous... Je dis ça à deux niveaux. Au niveau, d'une part, des chiffres, au niveau qui est démontrable, et au niveau de ma carrière, de mon parcours, au moment où j'ai pris ma retraite hospitalière, en essayant de comprendre pourquoi j'ai commencé dans l'enthousiasme et pourquoi j'ai fini dans cette espèce de marasme. Alors, vous parliez du 9-3 tout à l'heure, moi j'ai travaillé dans le 9-3 toute ma carrière, et effectivement, mais dans le 9-3, il y avait des psychiatres particulièrement dynamiques qui ont fait une psychiatrie de secteur particulièrement active, et à la fin de mon parcours, j'ai pu voir des choses inimaginables, c'est-à-dire la pénurie, c'est-à-dire le recours exagéré à l'isolement et à la contention, c'est-à-dire une bureaucratie totalement écrasante.
On va rentrer dans le détail de tout ça.
C'est-à-dire beaucoup de choses.
Mais Jean de Kervas, juste une petite précision. Je m'adresse à vous aussi, comme je sais que vous êtes un économiste de la santé. Quelle part l'économie, par exemple le paiement à l'acte, dans le cas de la psychiatrie, quelle part l'économie a dans le dévoiement de la psychiatrie ?
Je ne vais pas répondre tout de suite à cette question. Je vais simplement lever un lièvre qui qui n'est pas évident pour les gens qui nous écoutent, mais qui est évident entre nous, c'est que il y a à l'intérieur du monde de la santé mentale des débats épistémologiques et théoriques qui sont violents. Ce que dit Daniel Zaguri, clairement, et ce que vous dites aussi, monsieur, c'est qu'il faudrait que tout le monde travaille ensemble, comme c'est le cas dans le domaine du cancer, où radiothérapeutes, chirurgiens et médecins travaillent ensemble. Et il y a à l'intérieur du monde de la psychiatrie des querelles d'école qui posent des problèmes. Alors, la France, et vous allez voir que c'est paradoxal ce que je veux dire, la France est le pays de l'OCDE, 40 pays riches, qui dépense le plus pour la santé mentale en pourcentage de ses dépenses de santé. Donc la France dépense 15% de ses dépenses de santé en santé mentale. La moyenne de l'OCDE, écoutez-moi bien, c'est 6,7. Bien, alors, où est la différence, où est l'erreur? Elle est dans la prescription des psychotropes par les généralistes. C'est-à-dire l'essentiel de ce que l'on compte dans les dépenses de santé mentale, c'est pas le fonctionnement des secteurs psychiatriques, c'est pas la médecine libérale, c'est pas les consultations, ce sont les prescriptions. La deuxième remarque économique, c'est que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que effectivement la psychiatrie manque de moyens. À organisation inchangée. Donc, comme nous avons en stock beaucoup d'argent, nous avons en France aussi, en valeur absolue et pas relative, beaucoup de psychiatres, beaucoup plus que la plupart des pays occidentaux, c'est que donc nous avons un problème collectif d'organisation que nous refusons de regarder. Donc, et que, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que les deux discours sont vrais. Quand vous dites « on manque de moyens », c'est vrai. On manque de moyens parce que l'augmentation des dépenses en psychiatrie a été très inférieure à l'inflation et beaucoup d'autres considérations. Donc les secteurs psychiatriques ont eu de moins en moins d'argent. Simplement, collectivement, nous dépensons beaucoup d'argent. Donc la conclusion, c'est qu'il faudrait que collectivement, et cette émission nous aide, on regarde aux problèmes d'organisation.
Bah dis donc, poursuivons ce « High Time » en musique avec les Bérus. C'est toujours High Time et maintenant Mathieu Bellassène, psychiatre, auteur de La révolte de la psychiatrie aux éditions La Découverte, nous parle de la contention en psychiatrie sur France Inter.
Hier, pour la troisième fois en trois ans, le Conseil constitutionnel a rendu une décision concernant l'isolement et la contention en psychiatrie. Contention, derrière ce terme, une pratique encadrée mais courante en psychiatrie, la privation mécanique de la liberté de mouvement par l'usage de sangles. Comme tant de pratiques en psychiatrie, la contention fait débat, un débat méconnu du grand public et qui a récemment fait surface. Alors la contention est-elle thérapeutique, punitive? Son recours traduit-il un manque d'humanité de certaines techniques en cours dans la psychiatrie, ou plus prosaïquement d'un manque de moyens? Pour en parler, je reçois ce matin Mathieu Bellassène. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre de secteur, auteur de La santé mentale vers un bonheur sous contrôle. C'est paru à La Fabrique en 2014. Et pour commencer cet entretien, une question de définition, simplement. Qu'est-ce que la contention en psychiatrie?
Alors, la contention en psychiatrie, c'est le fait d'attacher, c'est la pratique la plus courante, d'attacher un patient à un lit par plusieurs attaches, les poignets, les chevilles et voire l'abdomen, donc c'est plusieurs points d'attache, sur un lit dans une chambre d'isolement. C'est-à-dire que c'est le maximum de la contrainte que vous pouvez avoir en psychiatrie. Tous les gens qui sont attachés en chambre d'isolement sont aussi hospitalisés sans consentement. Et donc il y a 10 000 personnes, d'après les derniers chiffres, chaque année qui sont attachées, 78 000 qui sont privées de leur liberté, qui sont hospitalisées sans leur consentement, et 30 000 qui sont en chambre d'isolement. Donc c'est pas rien, c'est une pratique qui, et c'est là le problème, est considérée par et les politiques et des soignants comme étant thérapeutique. Or, c'est une mesure de contrôle, c'est une mesure d'entrave, et c'est même une mesure contre le soin, c'est-à-dire que les patients qui sont attachés peuvent dire à quel point c'est une pratique traumatisante.
Qu'est-ce qui mène ces patients aujourd'hui à la contention en psychiatrie? Quelles sont les principales raisons? C'est se faire mal à eux-mêmes? C'est être un danger pour les autres?
Ben, écoutez, en fait, il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire que ce qui est souvent dit, c'est que c'est un manque de moyens qui explique l'inflation de la contention, puisque les contentions ont fait retour de manière très importante ces dernières années. Mais en fait, c'est pas que ça. Il y a l'imaginaire sécuritaire, en fait, qui nous traverse toutes et tous dans la société, c'est-à-dire qu'on a moins tendance à supporter l'angoisse et la peur que peut susciter la personne en elle, quoi. Il y a aussi le fait que de moins en moins les soignants sont formés justement à apaiser l'angoisse, à la contenir psychiquement et pas seulement la contentionner avec des sangles. Et puis il y a aussi la contention, on peut dire financière, puisque par exemple une réforme du financement de la psychiatrie a cours là depuis quelques mois, et en fait on va vers des soins qui sont de plus en plus de court terme. Donc les personnes qui ont le besoin de plus de soins et qui vont pas répondre au canon de la e-santé mentale par exemple, ils vont terminer sanglés et attachés. Et en fait, pour vous répondre sur le plan clinique, les personnes qui sont attachées, en fait, par exemple dans les urgences, ça peut être un peu tout le monde. Quand les services d'urgence sont débordés et puis qu'il n'y a pas suffisamment de monde, etc., on va avoir recours à la contention. Et dans les services de psychiatrie, c'est surtout des gens qui ne peuvent pas crier leur détresse autrement que en ayant des très grandes angoisses. Ouais, voilà.
Ces personnes qui sont attachées, sanglées, comment est-ce qu'elles décrivent cette expérience? Est-ce que c'est elles un traumatisme profond, réel?
Moi, je suis en train d'écrire un livre justement là-dessus sur l'abolition de la contention et du système contentionnaire, et j'ai fait un appel à témoignages et j'ai reçu beaucoup de témoignages.
On va revenir sur le besoin de système contentionnaire.
Ouais, et j'ai reçu justement beaucoup de témoignages qui disaient que finalement la contention retraumatise, c'est-à-dire que là où on devrait avoir des soins à l'hôpital, l'expérience de tous les patients finalement, les gens qui sont sous contention vont revivre des traumatismes, alors beaucoup d'agressions sexuelles, de viols, d'inceste, de violences physiques, ces éprouvés-là vont revenir parce que ils sont attachés, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau dans une position où ils sont dominés, une position de faiblesse, une position de soumission. Et en fait, c'est là le problème, c'est-à-dire que alors qu'il y a des pays qui ont aboli la contention, alors que les instances internationales disent que ce sont des pratiques d'entrave, ce ne sont pas des soins, etc., en France, on continue de penser que ce sont des soins.
Quels pays ont aboli la contention?
Alors, en Islande, par exemple, il y a l'abolition de la contention a été effective depuis plusieurs années. Vous avez en Suisse, dans un comté de Suisse, une abolition de la contention aussi. Et puis, vous avez, dans tous les rapports des organismes internationaux, le fait qu'il faut réduire, voire abolir les mesures d'entrave. Par exemple, le Conseil de l'Europe, en 94, dit il faut abolir la contention. C'est simple, clair, net. Et moi, je pense que la première des choses à faire, c'est abolir l'idée que c'est un soin. Parce que, vous voyez, ça légitime, par exemple, le ministre Olivier Véran, qui était le ministre de la Santé de l'époque, en 2021, quand il y a de nouveau le Conseil constitutionnel qui est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il va dire à l'Assemblée nationale, de l'avis des psychiatres eux-mêmes, il y a une dimension thérapeutique à l'isolement et la contention. Bon. Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous instillez le fait que c'est un soin, il ne va pas y avoir de garde-fou, et c'est le cas de le dire, pour arrêter ce genre de pratique. Et ça va les légitimer. Et en fait, le problème aussi, c'est que ça peut créer, et moi j'en ai été témoin direct, alors vous avez dit, je suis psychiatre de secteur, j'ai été, puisque j'ai été contraint de partir de l'hôpital public, et j'ai été le témoin du fait que les contentions, nous, on ne les pratiquait pas dans le service et on n'attachait pas, et il y a des services, 15% des services de psychiatrie n'attachent pas, mais les 85% autres qui attachent disent en fait c'est pas possible. Vous voyez, donc il y a un problème d'imaginaire. Et la dernière chose, c'est de dire que ces pratiques-là, elles peuvent créer aussi du sadisme chez les soignants. C'est-à-dire que on dit c'est des mesures qui sont des soins, mais en fait, ce que ça occulte, c'est que ça peut être des mesures punitives de contrôle et on va soumettre les patients. Et c'est ça le grand problème, c'est-à-dire que c'est un peu une pédagogie de la cruauté, quoi. On va apprendre à être cruel avec les patients.
Est-ce que dans certains cas, dans beaucoup de cas, les soignants, justement, ne se retrouvent pas à sangler, à attacher ces patients, ces personnes par nécessité, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, pas d'autre moyen de les prendre en charge?
Peut-être, mais si vous voulez, le problème, c'est que même chez les personnes qui attachent, j'ai des témoignages aussi de soignants qui disent voilà, quand j'attache, je perds ma dignité de soignant, parce que pour moi, c'est pas un soin. Il y a aussi des soignants qui vont dire mais qui vont être en burn-out professionnel parce qu'ils attachent. Ça, c'est il y en a énormément. Et puis quand on est confronté à la détresse d'une personne qui est sanglée attachée, on fait pas le malin. Moi, je vous dis, j'ai jamais eu cette pratique là j'ai jamais attaché de patient. Par contre, j'ai déjà vu des patients en chambre d'isolement dans d'autres services qui étaient attachés. Parfois, j'ai réussi à les détacher. Parfois non, parce que c'était dans d'autres services. Et en fait, quand vous entrez dans la chambre d'isolement, que vous avez quelqu'un qui est sanglé à un lit, mais c'est une catastrophe existentielle, et aussi pour les soignants, quoi.
On l'a dit en introduction de cet échange, pour la troisième fois en trois ans, hier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision concernant l'isolement et la contention en psychiatrie. C'était le fruit d'une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. En quoi le Conseil constitutionnel prend en charge ces questions-là? Quel est l'enjeu, globalement, de ces QPC?
Alors, l'enjeu fondamental, en fait, c'est les droits des psychiatrisés. En fait, pour être vraiment clair, c'est la 10e saisine du Conseil constitutionnel concernant ces affaires-là. Il y a déjà eu 8 censures. Donc là, hier, il y a eu une conformité. Bon, ça fait 2/10, quoi. Et en fait, l'enjeu, c'est de dire, est-ce que cette privation grave de liberté qui est l'isolement, la contention, est-ce que les psychiatrisés ont le droit à un recours de leur droit effectif? C'est-à-dire, est-ce que le juge des libertés doit intervenir immédiatement? Est-ce que l'avocat doit intervenir systématiquement dès le départ? Est-ce que vos droits doivent être notifiés? Et en fait, là, il y a un truc qui est assez paradoxal dans la décision du Conseil constitutionnel d'hier, c'est de dire que finalement, les patients qui sont isolés en contention, on va pas leur dire leurs droits immédiatement. Par exemple, quand quelqu'un est en garde à vue, d'emblée, on lui dit ses droits et ses voies de recours. Là, on va dire non, on vous dit pas vos droits, vous les aurez 48 heures plus tard. Et puis, si on vous a mis sous contention isolement d'une manière déraisonnable, c'est pas grave parce que vous pourrez faire un recours indemnitaire. C'est-à-dire que vous pourrez avoir de l'argent plus tard. Mais sauf que les droits effectifs ne sont pas respectés.
Les patients, les personnes mises sous contention ont droit à un avocat?
Ah oui, alors ils ont le droit à un avocat. C'est systématique, si vous voulez, par rapport au contrôle de la mesure. Mais c'est pas systématique dès le départ, d'emblée, quoi. C'est-à-dire, à la minute où on vous met sous contention isolement, on vous dit pas que vous pouvez avoir avoir le droit à un avocat. On vous dit pas vos droits, que vous pouvez saisir le juge des libertés de la détention immédiatement. On vous le dira plus tard, 48 heures plus tard. Mais 48 heures, quand vous êtes attaché, quand vous êtes en chambre d'isolement, etc., c'est très, 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 très long.
En quelques mots, Mathieu Bellassène, pourquoi le débat au sujet de la contention en psychiatrie est-il si peu vivant en France?
Eh ben, écoutez, c'est en fait, je pense qu'il y a la question, le législateur est contraint, en fait, de légiférer à chaque fois, mais surtout, il ne veut pas que se pose ce débat sur comment se passe de ces mesures privatives de liberté. Mais en fait, il n'y a pas qu'en France. Au niveau international, dans la littérature scientifique internationale, la contention mécanique en psychiatrie, c'est très très peu d'articles. En 50 ans, il y a 300 articles dans la littérature scientifique. Dans le même temps, il y a 110 000 articles sur les antipsychotiques, donc les médicaments psychiatriques. Donc si vous voulez, il y a vraiment quelque chose où il faut qu'il y ait des chiffres qui soient produits, où il faut absolument qu'il y ait les instances internationales se prononcent et oblige un petit peu les gouvernements à respecter les droits des premiers concernés en psychiatrie, quoi.
Eh bien, on essaiera d'en reparler dans ces matins du samedi. Merci beaucoup, Mathieu Bellassène. Je rappelle que vous étiez psychiatre de secteur, auteur de La santé mentale vers un bonheur sous contrôle. C'est paru à La Fabrique en 2014.
Et maintenant, dans High Time, un petit peu de musique avec les troupes de l'imaginaire. Le morceau s'intitule « Disorder viral ». We'll be right back.
miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down you know that. Deep down you know I'm always in periphery. Ran on you, pleased to see me. It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be batting off the hand that feeds me.
Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately, and I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill.
Ren, you sound more insane than I do. You think that those doctors are really there to guide you? Been through this a million times. Your civilian mind is so perfect, you're always being lied to. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice. All your problems will be gone. Fucking dumb boy.
Nah, mate. This time is different, man, trust me. I feel like things might be falling in place. And my music's been kinda doing bits too. Like I actually might do something great. And when I'm gone, maybe I'll be remembered for doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help.
You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one, so you see. You gotta kill you if you wanna kill me. I'm not leftover dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Where are your Grammys, Ren? Nowhere.
Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it, respect it. And for me, that's enough, cause this life's been tough. So it gives me a purpose I can rest in.
Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself.
Trust me.
You should be so lucky, having me inside you to guide you, remind you to manage expectations, provide you perspective. That thing you neglected, I get it. You wanna be a big deal, next Jimi Hendrix, forget it.
Man, it's not like that.
Man, it's just like that, I'm inside you, you twat.
No, it's not, man, you're wrong, when I write, I belong.
Let me break the fourth wall by acknowledging this song.
Ren sits down, has a stroke of genius.
He wants to write a song that was not done previous. A battle with his subconscious, Eminem did it.
Played on guitar,
Plan B did it.
Man, you're not original, you criminal rip-off artist. The pinnacle of your success is stealing other people's material.
Ren, mate, we've heard it all before.
She sells seashells on the seashore.
Fuck you, I don't need you, I don't need to hear this. Cause I'm fine by myself, I'm a genius. And I will be great, and I will make waves, and I'll shake up the whole world beneath us. That's right, speak your truth, your fucking God complex leaks out of you. It's refreshing to actually hear you say it instead of downplay it.
Music is all about the creative process, and if people can find something to relate to within that, then that's just a bonus.
Fuck you, I'ma fucking kill you, Ren.
Well, fucking kill me then, let's fucking have you, Ren.
I'ma do it, watch me prove it. Who are you to doubt my music? Cause I call the shots, I choose if you die.
Yeah, I call the shots, and so I choose who survives. I'll tie you up in knots when I lock you inside.
Newsflash! I was created at the dawn of creation. I am temptation. I am the snake in Eden. I am the reason for treason, beheading all kings. I am sin, with no rhyme or reason. Son of the morning, Lucifer, Antichrist, father of lies. Mephistopheles, truth in a blender, deceitful pretender, the banished avenger, the righteous surrender. When standing in front of my solar eclipse, my name is stitched to your lips. So you see, I won't bow to the will of a mortal, feeble and normal. You wanna kill me? I'm eternal and mortal. I live in every decision that catalyzes chaos, that causes division. I live inside death, the beginning of ends. I am you, you are me, I am you, friend.
Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself, and I've spent half my life ill. But just as sure as the tide starts turning, just as sure as the night has dawned, just as sure as the rainfall soon runs dry when you stand in an eye of a storm. I was made to be tested and twisted. I was made to be broken and beat. I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own two feet. And you know me, my will is eternal. And you know me, you've met me before. Face to face with a beast, I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor. And I go by many names also. Some people know me as Hope. Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on the rope. And you know how I know that I'll prosper? Cause I stand here beside you today. I have stood in the flames that cremated my brain, and I didn't once flinch or shake.
So cower at the man I've become. When I sing from the top of my lungs that I won't retire, I'll stand in your fire, inspire that me to be strong. And when I am gone I will rise in the music that I left behind. Ferocious, persistent, immortal like you, we're a coin mint in different size.
When I was 17 years old, I shouted out into an empty room, into a blank canvas, that I would defeat the forces of evil. And for the next 10 years of my life, I suffered the consequences, with autoimmunity, illness, and psychosis. As I got older, I realized there were no real winners and there were no real losers in psychological warfare, but there were victims and there were students. It wasn't David versus Goliath. It was a pendulum, eternally swaying from the dark to the light. And the more intensely that the light shone, the darker the shadow it cast. It was never really a battle for me to win. It was an eternal dance. And like a dance, the more rigid I became, the harder it got. The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled. So I got older and I learned to relax, and I learned to soften, and that dance got easier. It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, from gods. And I must not forget, we must not forget, that we are human beings.
C'était la chanson Irène, où l'artiste Rennes expose son vécu et livre un récit d'espoir. Et maintenant, nous allons entendre François Toscaïès.
Ce qui compte, ce n'est pas la tête, hein, sinon les pieds. Savoir où est-ce que tu mets les pieds, hein, hein. C'est le pied qui est le grand lecteur de le livre du monde, de la géographie. Hein, la marche, hein, ce n'est pas avec la tête. Il faut que je sache où est-ce que je mets les pieds. Hein, vous comprenez, hein, c'est tout. Les pieds, c'est l'appareil, c'est le lieu de la réception de ce qui deviendra le tonus. C'est pourquoi que toute mère, la première chose qu'il fait, c'est faire des chatouilles aux pieds. Tu comprends? Parce qu'il s'agit de tenir debout, quoi, vous comprenez? De faire une distribution de tonus, quoi, qui te permet d'aller quelque part, mais tu vas avec le pied et non pas avec la tête.
Il y a 18 ans, un jeune psychiatre, le docteur Jean Houry, fondait avec quelques amis et très peu d'argent une clinique psychiatrique en rachetant un petit château sans grande valeur et en s'y installant avec une vingtaine de malades. La clinique de la Borde à Courcheverny près de Blois dans la Loire. Aujourd'hui, la clinique de la Borde et le mouvement de psychothérapie institutionnelle sont connus, discutés, admirés, critiqués dans les milieux psychiatriques français et étrangers. Ici vivent une centaine de malades qui se renouvellent au rythme d'une dizaine d'admissions par mois, près de 80 soignants, les moniteurs, 8 ou 9 médecins.
J'aurais pu longtemps à plaire à ceux de là-bas qu'aux gens d'ici. Là-bas, mon séjour n'aura point de fin.
Il n'y a jamais de séparation entre le théâtre et la vie.
Effectivement, en voyant la Borde ou en voyant des images de la Borde, il n'y a pas de différence évidente entre ceux qui soignent et ceux qui sont soignés.
Oui, enfin, vu comme ça, c'est certain, vu de l'extérieur, enfin, et ça a été pour nous, d'ailleurs, bien avant la borde, quoi, une sorte de position de principe, qui a perdu, d'ailleurs, de son tranchant, depuis, mais qui, à cette époque, était disons, enfin, assez capitale. C'était de demander au personnel, aussi bien médecin qu'infirmier, de ne pas mettre de blouse. Maintenant, de l'appliquer ça simplement par répétition, c'est discutable. Enfin, il me semble que ça reste quand même assez valable que d'essayer d'éviter au maximum cette espèce d'artifice qui n'est que, je sais pas, la marque visible du maintien d'une certaine hiérarchie. C'est peut-être à partir de là, d'ailleurs, qu'est née cette sorte de nécessité, qui est difficile à manier, d'ailleurs, avec beaucoup d'incidents, de ce qu'on appelle ici les roulements. On peut dire que les roulements, c'est l'acquisition d'une possibilité pour le personnel de pouvoir quitter son rôle qui lui est fixé par l'administration, et de pouvoir endosser un autre rôle. Autrement dit, de pouvoir séparer sa personne avec son habit, quoi, pour aller plus simplement. Pour moi, enfin, c'est peut-être une particularité comme ça. Il y a Freud, il y a Marx, mais il y a Kierkegaard. On peut dire que c'est ces trois piliers-là de conceptualisation et d'envisager justement la façon de traiter la rencontre. Dans ce sens que Kierkegaard, c'est, on peut le situer comme le critique permanent du système, comme il dit. Le système hegelien, etc. C'est-à-dire de toujours être à l'affût de ce qui se présente dans l'existence.
On revient à cette notion de vigilance.
De vigilance, mais alors avec une dimension et qui n'est pas, disons, une dimension tatillonne. Une dimension qui essaye de donner un sens, quoi, à l'existence. Mais dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Parce qu'il faudrait leur situer.
Et finalement, est-ce que vous n'avez pas une vue et une pratique de la psychiatrie qu'on pourrait qualifier de très humaniste?
c'est un piège, enfin, on sait bien, l'humanisme, hein. Alors, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est une espèce de... C'est devenu un champ d'épandage, presque, de toutes les bonnes intentions, et puis des mauvaises aussi. Hein.
Vous avez beaucoup de bonnes intentions.
Moi, je sais pas, hein. Moi, je pense que les bonnes intentions, et je crois que c'est Freud est là pour nous l'enseigner, c'est toujours très dangereux, hein, d'avoir des bonnes intentions.
Tell them, say, I'm a true ganja man. No, me no fear Babylon.
Ce High Time se termine. Demain, vous pourrez enlever tous les fils et faire ce qui vous plaît, comme aller manifester par exemple, en écoutant La Primitive.
Take it down low, take it down low. What's up, y'all? We're having a good time tonight. Everybody, if you love love, show your love and make some noise, y'all. Yeah! Yes, I! Y'all gonna bring a brethren out. Good brethren right now. We're gonna bring a brethren out right now. For real. All the way from Trinidad. Make some noise for Hardical Dan. Make some noise for Hardical Dan. Hardical Dan, where are they, man?
Is it dancehall business? Is it nice to dance? And it's a rich article to all we watch in that the city cannabis come. You know, say something you cannot miss when it comes down to this. This is what we chant, say me tell them it's a people them a scream and a shout at them. Some of them a talk, say they really love this. So you cannot fart, say you cannot fart to miss. Cannabis come on, I'm a rock down session. Everyone a come is a smoke all night long. Y'all of them a talk, it's the wickedest one. Now me tell about the man, cause me stand up on the stand. Now I come in on the dance, see me lyric all the yacht. Come in on the dance, see me smoking up but see me feeling kinda high, see me feeling real hot. Now me have a chatter, see me, oh! Red, red eyes, see the red, red beard. And now for them a talk, see the wicked not scared. Think of Babylon, come, me no get up, me no run. True, I am a true Rastaman. Bring up on the mic, see me rock down session. This is what me chatter, see the kind of this man. High time, yes, me have a tell everyone. Mash up dance all in Amsterdam. True, me have a chat on the mic. When me come up on the mic, it's a lyrically aim. Take it from the top, I see me tell him yes tonight. Yeah, the calls, I'm telling red right. On a telephone, I'm a conversation, this is what I'm a chat. Tell him about the weed, I'm a tell him about the pop. We tell him that one, we have a really have a chat. Me not deal with no coke, me not deal with no crack. This is what I'm telling him, it's a here, what I'm a chat. Tell him about the weed, I'm a tell him about the pop. Show me, I'm a tell.